Bonjour à tous. J'essayais de me rappeler quand, pour la dernière fois, nous étions là devant vous, avec vous, et je dois avouer que là, ma mémoire me fait défaut. Qu'importe, mais j'ai reconnu quand même quelques visages ici parmi vous ce matin, et c'est réjouissant de pouvoir partager ce culte ensemble. Nous sommes depuis septembre 2014 arrivés en Auvergne. Depuis l'Alsace, nous avons apporté nos valises et nous nous sommes installés ici. Et j'ai le grand plaisir de vous annoncer que nous sommes naturalisés Auvergnats. Voilà. Donc, il y a deux Auvergnats en plus dans la région Auvergne. Comment dit-on aujourd'hui ? Rhône-Alpes, Auvergne. Oui, je ne suis pas encore habitué avec tous ces changements. Alors, on nous a parlé de repos à l'instant. Il est vrai que dans ce monde dans lequel nous sommes, pour le chrétien, le repos en Dieu est indispensable. Mais il faut dire aussi, il faut reconnaître que la vie n'est pas un long fleuve tranquille, parce que nous sommes exposés à des circonstances parfois difficiles. Par exemple, si vous avez mis votre espérance dans quelque chose, dans une situation, et puis que tout d'un seul coup, tout cela vole en éclats, qu'est-ce qu'on devient ? Qu'est-ce qu'on devient ? Alors, ce matin, nous allons nous tourner vers un récit que nous connaissons bien, finalement. C'est quelque chose qui se passe dans cette période de Pâques ou après Pâques, et je pense qu'on peut considérer que nous sommes encore dans cette période de Pâques. En fait, pour le chrétien, Pâques, c'est tous les jours. Oui. Donc, on peut lire ce récit qui est assez long, dans Luc 24. Luc, chapitre 24. Je vais lire à partir du verset 13 et jusqu'au verset 35. Je vais lire toute l'histoire parce que vous allez voir, je vous donne déjà une petite indication. Nous allons faire un parcours d'environ 11 kilomètres. Et il faut environ 2 heures pour faire ces 11 kilomètres. Ça veut dire que nous sommes encore là pour 2 heures environ, minimum. Voilà, donc vous savez. Et voici ce même jour, deux disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades, et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, « De quoi vous entretenez-vous en marchant ?» Et ils s'arrêtèrent, l'air attristé. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci ? » ?»« Quoi ?» leur dit-il. J'aime bien l'humour. Et ils lui répondirent, bien, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète, puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple, et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël, mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passées, et il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés. S'étant rendues de grand matin au sépulcre, n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et annoncer qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors Jésus leur dit, ô hommes sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire ? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant, reste avec nous parce que le soir approche. Le jour est sur son déclin, et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain, après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Et ils ne dirent l'un, ils se dirent l'un à l'autre, mais notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ? Se levant alors même, ils retournèrent à Jérusalem et ils trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux assemblés et disant « Le Seigneur est réellement ressuscité et il est apparu à Simon. » Et ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils l'avaient reconnu au moment où il rompit le pain. Donc, comme je l'ai dit, le Jérusalem-Emmaüs, environ 11 kilomètres, 2 heures de marche environ. Donc, ces deux disciples sont, on peut s'imaginer facilement, plus que tristes suite à la crucifixion de Jésus. Ils font partie de ceux qui ont espéré que Jésus serait le Messie qui devait délivrer Israël. Mais voilà, les chefs religieux, les politiques du pays ont tout mis en œuvre pour comment organiser la mort de Jésus, je dirais même mieux un assassinat. Et nous pouvons facilement imaginer dans quel état d'esprit se trouvent ces deux personnages. Ils marchent tête baissée, les épaules basses, profondément découragés, abattus, sonnés, submergés par le désespoir. Sont-ils deux hommes, disciples de Jésus ? Il n'y a pas plus de précision. Le verset 29 laisse plutôt penser qu'il s'agit d'un couple puisqu'ils invitent Jésus à rester chez eux. Quoi qu'il en soit, l'avenir tel qu'ils l'ont entrevu, tel qu'ils se l'étaient imaginé, s'est totalement obscurci. C'est un temps d'épreuve. Non seulement pour ces deux disciples, mais aussi pour tous ceux qui ont suivi Jésus. La question est alors, comment vivre le temps de l'épreuve ? Jésus nous apprend à ne pas fuir aucune étape de notre vie, à aller au bout de ce que nous avons à vivre, que ce soit le temps de la joie ou celui de l'épreuve. Vivre pleinement le présent avec lui et en lui, dans toute notre humanité, certes, si imparfaite, et cela produira un fruit de vie. Et nous nous retrouvons sur ce chemin d'Emmaüs, et sur un chemin, qu'est-ce qu'on y fait ? On y marche. Sur ce chemin de tristesse, de désespoir, de découragement, eh bien, Jésus les rejoint. Alors, évidemment, il y a un certain nombre de questions dans ce récit. Et je pense que quand on est dans une épreuve, quand on est dans les difficultés, nous connaissons tous la liste des pourquoi. Alors je me permets d'en avoir trouvé quelques-uns de ces pourquoi. Pourquoi ces deux n'ont pas cru les femmes ? Pourquoi Emmaüs, est-ce vraiment le village qu'ils habitent ou est-ce que c'est une fuite ou un lieu de refuge pour se faire un peu oublier ? Pourquoi Jésus s'est approché d'eux sans leur dire qui il était ? Après la mort de Jésus, leur foi a-t-elle été changée ? Pourquoi Jésus fait-il semblant d'ignorer ce qui s'est passé à Jérusalem ? Pourquoi Cléopas, l'un des deux, n'a-t-il pas compris ce qu'avaient écrit Moïse et les prophètes ? Nous, à leur place, on l'aurait compris, bien sûr. Pourquoi Jésus a-t-il agi comme s'il avait voulu aller plus loin en arrivant au village ? Pourquoi les deux n'ont-ils pas reconnu Jésus avant qu'il ait commencé à rompre le pain ? Pourquoi, quand Jésus est reconnu, il disparaît ? Et vous savez, la liste pourrait être encore très longue des pourquoi. La première action de Jésus consiste à faire route avec ces deux personnes en restant silencieux. Et c'est essentiel. Il ne s'impose pas, il écoute. Ensuite, Jésus leur pose une question des plus simples au verset 17. « Au fait, de quoi parliez-vous là en marchant, les amis ?» Et la question s'arrête et Luc continue ce récit en disant « Ils s'arrêtèrent, l'air triste. » Cette question Jésus aurait pu la poser immédiatement lorsqu'il avait rejoint ces deux. Eh bien non. Il a commencé par écouter ce qu'ils disaient. En un mot, il a pris la température du moment, si j'ose dire. Et sa question trouve alors sa place dans la discussion et amène les disciples à réfléchir sur ce qui les attriste et mettre des mots sur leur douleur intérieure. Oser dire ce qui fait mal, n'est-ce pas la première étape du processus ? Souvent, quand on a mal, quand on en souffre, on veut voir personne. On peut se mettre dans un trou de souris et surtout ne plus rien voir, ne plus rien entendre. Alors que c'est le contraire. Oser dire. La première étape du processus. Déposer ses fardeaux. Jésus rejoint les disciples là dans leur problème actuel. Jésus n'arrive jamais vers une personne qui est triste ou qui est malade en lui disant une parole de ce style. « Allez, écoute mon ami, je connais ton problème, voilà ce que tu dois faire pour le résoudre. » Ou « Ne t'inquiète pas, il y a qu'à, il faut que. » Non. Au contraire, il demande à la personne d'expliquer sa situation, et cela même si ça paraît évident. Et de la question que Jésus pose, alors découle une discussion au cours de laquelle il fait comme s'il ignore ce qui s'est passé, alors qu'il est, lui, l'acteur principal de ce qui s'est passé. Il s'intéresse à la version des faits telle que les ont vécues les disciples. Les deux disciples s'étonnent tout d'abord que Jésus ne soit pas au courant des derniers événements. Parce que, bien sûr, ils voient bien que Jésus qui les rejoint vient par la même route qu'eux, donc il ne peut venir que de Jérusalem. Alors, ils expriment leur déception. Ils ne comprennent pas que cette personne qui les rejoint ignore tout. Ils attendaient que Jésus une manifestation de sa puissance, une libération politique. Et dans ces trois versets de 19 à 21, nous pouvons voir l'image que les disciples se faisaient de Jésus. Et c'est important pour comprendre la suite. Cependant, dans leur réponse contient une lueur d'espoir, versets 22-24. Parce que quelques femmes, se sont rendues au tombeau ce matin, mais n'ont pas trouvé le corps de Jésus. Mais les anges leur ont dit qu'il est vivant. Puis là-dessus, quelques-uns de leurs amis y sont allés aussi. Puis ils ont bien trouvé les choses comme les femmes les avaient rapportées. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Sans mettre en doute toutefois ces témoignages, les deux disciples ont quand même de la difficulté à croire. Tant que je n'ai pas vu, je ne croirai pas. Il y a aussi notre histoire avec cela. Nous sommes donc au point où le problème est posé. Mais n'oublions pas que les disciples ignorent toujours qui marche avec eux. Nous, c'est facile pour nous aujourd'hui parce qu'on connaît la suite. Avec une certaine tristesse, Jésus s'adresse alors aux deux disciples, au verset 25 et verset 25. Et on pourrait penser que Jésus est en train de leur faire un peu la leçon. Écoutez, là, les amis, il me semble que vous avez manqué un épisode. Non, pour moi, je considère plutôt que les paroles de Jésus n'expriment pas vraiment une critique à leur égard. Je dirais même que, au contraire, il est possible d'y voir une grande compassion pour ces deux personnes et puis un désir de les faire progresser aussi dans sa connaissance. Les explications de Jésus ne permettent pas toujours aux deux de le reconnaître. Il faut quand même reconnaître qu'ils ont eu droit, d'après moi, à une étude biblique remarquable. J'observe aussi que Jésus a eu droit à une étude biblique sur Jésus par deux personnes en dépression. Et enfin, ils arrivent à Emmaüs. Là, vous êtes surpris parce qu'on n'a pas mis les deux heures, comme je vous avais promis.
Donc les disciples invitent Jésus à entrer et à manger dans leur maison, au verset 29. Ça montre que durant le trajet, il y a eu une relation de confiance qui a pu se développer, et c'est tant mieux. Parce qu'à table, il va se passer quelque chose d'étrange. Jésus prend le pain, rend grâce, le rompt et le donne aux deux disciples. Et c'est à ce moment-là précis que leurs yeux s'ouvrent et qu'ils le reconnaissent, mais aussitôt Jésus disparaît. Il est difficile d'expliquer précisément ce qui, dans les gestes ou les paroles de Jésus, produit cette soudaine illumination. Il se peut que, je parle, les disciples aient reconnu la marque des clous dans les mains du Christ quand il leur a tendu le pain. Mais au-delà de ce geste, n'y a-t-il pas des symboles ? Ce qui se passe là, dans la maison à Emmaüs, a une forte valeur symbolique. À table, n'est-ce pas Jésus qui est l'invité ? Et il se comporte comme le maître de la maison. Il prend le pain et rend grâce. Lui qui est le pain de vie, lui qui nous donne la vie qui vient de Dieu. Moi, je suis le pain de vie, celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et Jésus rompt le pain. Déchirure qui apparaît souvent lorsque Dieu fait alliance avec l'homme. Et par-dessus tout de la mort du Christ sur la croix. Alors Jésus distribue le pain rompu aux deux disciples. Jésus donne le pain, Jésus donne son corps, Jésus se donne pleinement, sans rien garder pour lui. Dans les évangiles, le pain est un symbole de vie et non de mort. Mais la vie donnée est communiquée au travers de la résurrection. En rompant le pain et en le distribuant aux disciples, Jésus s'ouvre à eux comme un livre dont les disciples jusqu'alors n'auraient vu que la couverture. La symbolique des mains est aussi très forte. Les mains, souvent, on est embarrassé avec les mains. On ne sait pas trop quoi en faire. On les croise, on les cache dans les poches, on les laisse pendre selon l'attitude que l'on adopte. On ne sait qu'en faire si on est mal à l'aise, mais on les tend pour accueillir un ami. Et dans ce récit, bien, nous passons du stade où Jésus tient le pain à deux mains à celui où il le déchire, écarte les bras et ouvre les mains pour offrir aux disciples. Il prie, action verticale, puis il donne, action horizontale. Il fait preuve d'autorité en prenant le pain alors qu'il était l'invité. Si vous êtes invité, vous ne vous comporteriez pas comme cela. Quoique vous pourriez le faire, mais on vous regarderait d'un air bizarre. Les invités se comportent autrement. Il fait acte d'amour en le tendant aux disciples. Il y a comme une plénitude dans ce geste, comme un résumé d'images symboliques de l'œuvre de Christ, non seulement dans sa mort, mais aussi dans sa résurrection. Il est là, à table, vivant, ressuscité pour distribuer le pain. Plénitude encore plus visible si l'on veut résumer les différentes actions de Jésus. En premier lieu, il marche avec les disciples. Puis il leur révèle ce que disent les Écritures à son sujet. Finalement, il leur donne le pain. Comment ne pas penser à cette parole de Jean 14, verset 6 ? Je suis le chemin, la vérité et la vie. Le chemin sans la vérité, c'est le mensonge. La vérité sans la vie, c'est le désespoir et la mort. Le chemin et la vie, c'est le Christ. Ce n'est pas un hasard si les disciples reconnaissent à ce moment précis. Et puis ce récit semble se terminer d'une manière qui, moi personnellement, me laisse sur notre faim malgré qu'on parle de pain. Ces deux disciples viennent de reconnaître Jésus et on aurait pu imaginer que le repas finirait dans la joie, à nouveau tous réunis, appelant les amis, les voisins, la famille. Oui, pour se réjouir ensemble. Mais au moment où les disciples comprennent que Jésus lui-même parle avec eux, il devient aussitôt invisible. C'est une caractéristique de plusieurs rencontres de Jésus après sa résurrection. Dès que les gens le reconnaissent, il disparaît ou bien il ne se laisse surtout pas toucher. Ou encore, il donne une mission à accomplir sur la terre, comme en Actes 1, versets 6 à 11, puis il monte au ciel. Un des dangers après la résurrection était que les disciples pensent que Jésus, comme Messie, allait immédiatement établir son royaume sur la terre, en chassant les autorités en place, surtout qu'il venait de manifester sa puissance en ressuscitant. Et on retrouve cette idée dans la question d'ailleurs des disciples, peu de temps avant l'ascension, acte 1, verset 6. « Seigneur, est-ce en ce temps-ci que tu rétablis ton royaume pour Israël ?» Nous voyons bien là qu'ils n'étaient pas du tout sur la même longueur d'onde. Il y avait un décalage significatif. Un autre danger était de vouloir aussi garder le Messie uniquement pour eux, en pensant qu'ils étaient les premiers et les derniers fidèles. Vous savez, c'est le réflexe du petit troupeau ou du club privé du quartier. Jésus, au contraire, leur dit de ne pas rester là scotché, en ayant deux tensions. Non, mais d'aller de l'avant, comme témoins jusqu'au bout de la terre. Maintenant, ce sont eux les porteurs de son message, message de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. D'ailleurs, les deux disciples le réalisent au verset 33. Aussitôt, ils se levèrent et retournent à Jérusalem. Certainement qu'ils n'avaient pas encore eu le temps de défaire leur sac à dos. Ils l'avaient laissé là dans l'entrée de la maison. Et aussitôt ça, hop, ils reprennent ce sac à dos et ils retournent à Jérusalem. Dans la nuit, dans le froid, sous la pluie peut-être. Ils étaient fatigués. Mais ils y vont. Pourquoi faire ? Pour raconter aux autres disciples comment Jésus s'est fait connaître à eux en rompant le pain. Pour terminer, voyons. La rencontre des deux disciples avec Jésus leur a permis de comprendre que l'image qu'ils se faisaient du Christ sous forme d'un libérateur ne correspond pas au Jésus vivant tel qu'il leur est apparu. À l'extrême, Jésus peut paraître bon comme un révolutionnaire qui a échoué, une sorte de Che Guevara, misérablement, qui a fini sur une croix. Mais dans cette marche entre Jérusalem et Emmaüs, dans ces discussions, dans ce pain qu'il leur a donné, ils ont pu entrevoir une nouvelle facette du Christ, celle d'un Dieu qui ne s'impose pas avec force, mais qui marche à leur côté, même s'ils ne le reconnaissent pas. Si je rejoins deux amis qui marchent, qui ne me reconnaissent pas, moi je change de direction. À quoi bon continuer la route avec deux personnes qui ne me reconnaissent pas ou qui font semblant de ne pas me reconnaître ? Ça vous est jamais arrivé, ça ? Je sais pas, dans la rue, où vous faites vos courses, vous voyez au loin quelqu'un que vous connaissez, vous vous approchez, puis vous voyez la personne assez aperçue, elle vous a reconnu, et elle change de direction. Ça vous est jamais arrivé, ce genre de choses ? Vous vous dites alors, mais tiens, c'est bizarre. Jésus aurait pu faire ça. Ils ne me reconnaissent pas. Oh ben, qu'ils continuent leur route, moi je vais la mienne. Il a fallu 11 kilomètres pour faire comprendre aux disciples une partie du mystère de la résurrection. Et même davantage, le mystère de Dieu qui se fait homme et qui veut être notre prochain. Qu'est-ce que c'est que 11 kilomètres ? En comparaison d'un si grand mystère. Mais en agissant comme Jésus l'a fait, il a pu rencontrer les disciples là où ils étaient, là où ils en étaient, dans leur ici et maintenant, Jésus ne voulait pas apparaître comme, vous savez, comme dans un show publicitaire, de façon à remporter immédiatement l'accord du client. Vous connaissez ces slogans ? Non, il rejoint les disciples découragés. Découragés sur leur chemin. Ils marchent, et même parfois, ce découragement aurait pu très bien être contagieux, vous savez. Est-ce que vous vous plaisez, vous, beaucoup, avec des gens qui sont en dépression ou qui brassent tout le temps du noir ou qui vous racontent que des choses négatives ? Moi, en principe, ça ne m'attire pas beaucoup. Bon, alors évidemment, Eric le sait, quand on passe en mode pasteur, on réagit différemment. Je ferme la parenthèse. Donc, il rejoint les disciples. Mais découragés, ils sont au fond du trou sur cette route. Et il va marcher à côté d'eux sans qu'ils en soient conscients, eux. Ils sont tellement focalisés sur leurs problèmes. Mais il les fait progresser jusqu'au point où ils peuvent le reconnaître par eux-mêmes. Parce que peut-être que si Jésus leur avait dit « Hé, les amis, vous ne me reconnaissez pas », est-ce qu'il l'aurait cru ? Pas sûr. Donc, il fallait qu'ils le reconnaissent eux d'eux-mêmes. La tristesse aveuglait leurs yeux. Et Jésus, petit à petit, remplace cette tristesse par de la joie au verset 32. Ce processus a pris du temps. Et sans cette préparation, le moment si surprenant où ils comprennent qui est avec eux n'aurait pas été possible. Le Seigneur n'agit pas toujours de la même manière qu'on l'imagine. Parfois, il accompagne sans que l'on s'en aperçoive. D'autres fois, il nous porte sans qu'on croie, tout en croyant bien que nous sommes seuls, qu'on est abandonné, alors qu'on est porté. Et Jésus peut alors te dire... Tu as une immense valeur à mes yeux. Il te reste beaucoup de choses à découvrir. À mesure que tu avanceras dans ce chemin, tu te rendras compte de choses merveilleuses que tu n'entrevois encore qu'à peine, ou comme au travers d'un verre trouble. Ce reproche n'écrase pas la personne, mais vise à lui faire abandonner la pointe peut-être d'orgueil, de suffisance ou d'assurance mal placée qui empêche justement de reconnaître ce qui se cache derrière les apparences. N'est-ce pas en restant caché que Jésus se révèle aux deux disciples tel qu'il est vraiment et non tel que eux se l'imaginaient ? N'est-ce pas en disparaissant au moment où ils le reconnaissent que Jésus leur montre le vrai sens de leur mission, témoigner qu'il est bien ressuscité. Et aujourd'hui, je suis de ceux qui peuvent dire « Jésus est réellement ressuscité. Il est vivant. » Ils étaient incapables de le reconnaître parce qu'ils voulaient voir Jésus comme ils le décrivent au verset 21. Celui qui allait délivrer Israël de leur histoire politico-socialo-économique, etc. Mais ce n'était pas du tout ça. Leurs yeux s'ouvrent au moment où ils comprennent que derrière cet homme qui a fait le chemin avec eux et les a encouragés, eh bien, se cache Jésus lui-même. Bon, ils se sont trompés, manifestement, et ont cru voir qu'un homme dans la personne du Christ. Ne pourront-ils pas alors maintenant discerner le visage du Christ derrière chaque être humain que Dieu placera devant eux. Pâques, la résurrection de Jésus est un événement central, incontournable pour la foi, pour votre foi, pour la mienne. Et Jésus nous précède, il nous accompagne dans toutes nos résurrections. Ne pensez jamais que vous êtes arrivés. Ne pensez jamais que vous en avez fini. Je ne sais pas où vous en êtes avec le Seigneur, mais le Seigneur a toujours quelque chose à ressusciter dans chacune de nos âmes, dans chaque être intérieur que nous représentons. Il est le chemin, il apporte le salut, il est au centre de notre vie. Qu'il en soit ainsi pour chacun de vous et que le Seigneur puisse vous encourager sur votre chemin, sur votre chemin. Et quand les circonstances sont difficiles, n'oubliez jamais, il est là. Il écoute. Et vous avez le droit, pour ne pas dire le devoir, de sortir, de vider le sac à dos. Et alors, il rentrera chez toi et soupera avec toi. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.